Voilà, avec Marielle, on va vous présenter un petit peu et la journée et le cadre dans lequel elle se déroule. Donc une journée Proust et les sciences sociales aller-retour. Hein. On va vous expliquer un petit peu tout à l'heure ce qu'on entend par là. Alors je voudrais revenir d'abord, avant de passer aux 40 ans de l'EHESS, sur le pôle Proust dans lequel s'inscrit cette journée. Donc le pôle qui est à la fois un programme et un réseau de recherche qui souhaite promouvoir la recherche interdisciplinaire sur Proust, mais aussi à partir de Proust, c'est-à-dire pas seulement un travail sur son œuvre, mais réfléchir un petit peu à l'impact de son œuvre sur la pensée contemporaine. Donc l'objectif, si vous voulez, c'est évidemment d'une part de repérer le lien de son œuvre avec les savoirs et aussi les rêves de son temps, d'une certaine manière, mais aussi de faire basculer un petit peu la pensée proustienne, ou ce qu'on peut appeler comme ça, vers des débats de notre temps. Alors ce pôle a un carnet de recherche qui diffuse les activités des chercheurs qui font essaimer l'œuvre de Proust dans le domaine des sciences humaines et sociales, mais aussi dans celui des sciences du vivant. Hein, c'est quelque chose un petit peu différent et il y aura des activités qui seront organisées autour de cette question des sciences du vivant à l'époque de Proust. Alors nous accueillons aussi des chercheurs, hein, notamment Erika Fulop qui nous fait le plaisir d'être ici, Audrey Serfond qui sera là aussi. Alors avec ce pôle, nous souhaitons mettre en relief les transversalités de questionnement, mais aussi leur décalage entre littéraire et philosophe, littéraire et linguiste, sociologue, anthropologue, historien ou traducteur, pour n'en citer que quelques-uns. Et pourquoi un pôle Proust et pas un pôle Artaud, par exemple, mais ce qui serait assez légitime hein, dans la mesure où Artaud a constitué un référent important pour les penseurs du XXe siècle et aussi du XXIe. Alors, il me semble que le cas de Proust est exemplaire à bien des égards. Hein. S'il a été très tôt repéré à l'étranger par les philologues, par les philosophes, hein, qu'on pense à Curtius, Spitzer, etc., c'est seulement à partir des années 50, véritablement, que Proust devient un classique. Et on pourrait revenir sur cette notion du classicisme proustien, puisque vous savez qu'il a théorisé cette notion à plusieurs reprises. Je vais aller vite, mais vous savez qu'il y a des raisons éditoriales, une énorme masse d'écrits proustiens qui sont publiés, notamment chez Gallimard, dans la recherche, dans la Pléiade aussi, au début des années 50. Il y a aussi des raisons politiques qui font que Proust devient finalement un auteur lisible. Il y a aussi à la même époque l'édition des correspondances avec sa mère, avec Jacques Rivière, qui engendre finalement une redécouverte générale d'un auteur qui était jusqu'alors loin de faire l'unanimité, ou qui hantait la pensée secrètement, presque de façon inavouable. Et je pense par exemple au revirement complexe de Sartre, qui par exemple dans le Carnet Midi en 1924 voit en Proust un tonique et un excitant qui est pour lui une incitation à la réflexion, et Proust qui devient ensuite un fantôme duquel il faut se délivrer. Hein. Ça c'est dans un article sur Husserl qu'il commence à écrire en 34, qui est publié en 39 et qui va le republier dans Situation 1 en 1947. Alors, Lévinas revient en 1987 sur Proust, et il me semble que le lien peut se faire ici avec la question des sciences sociales qui est l'objet de notre étude aujourd'hui. Et il explique en effet que si Proust peut analyser ses affects et ses impressions, mais aussi la société de son temps et les façons multiples par lesquelles les individus tentent de s'y insérer, de s'y faire une place, etc., c'est à partir d'une perspective d'objectivité, donc il y aurait une objectivité interne à la recherche, mais cette objectivité s'ouvre au cœur même de l'intimité subjective, et c'est là qu'on peut peut-être essayer d'analyser la posture d'un certain sociologue qui serait interne au moi du narrateur, et je cite Lévinas, « Tout se passe comme si un autre moi-même doublait constamment le moi, dans une inégalable amitié, mais aussi dans une froide étrangeté que la vie s'efforce à surmonter », écrit-il page 120. Et si Lévinas relie Proust à Freud et Bergson, hein, c'est l'objet du chapitre dans Nom propre, il précise cependant « Il y avait aussi un Proust sociologue, nouveau Saint-Simon d'une noblesse sans Versailles, analyste d'un monde précieux et artificiel, immobile dans l'histoire, suspendu aux conventions, conventions plus concrètes que le réel, et chose remarquable, fournissant à ses habitants, par ses abstractions même, ces situations dramatiques et profondes qui mettent en cause l'humanité de l'homme chez un Shakespeare ou un Dostoïevski. Alors voyez, bien sûr, il y a peut-être des présupposés dans cette analyse en termes de mondanité ou d'immobilisme, certains attendus par rapport aux sciences sociales, mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'idée que les situations dramatiques et profondes, c'est l'idée que les aventures, l'insolite, le romanesque, naissent finalement aussi de l'analyse du monde social et qu'il n'y a pas une opposition. Et il conclut, nous n'avons pas changé tout cela, mais la minutie de l'analyse qui naguère nous émerveillait ne vaut plus à nos yeux par elle-même, et les explications qui dans l'œuvre de Proust souvent s'ajoutent à l'analyse ne nous convainquent pas toujours. Alors j'imagine que les intervenants de la journée d'aujourd'hui vont nous expliquer s'ils sont convaincus ou non par les analyses du monde social selon Proust, ou les analyses de l'intégration et de l'incorporation, de la socialisation selon lui. Alors l'essentiel pour moi avec ce type de citation, c'est évidemment de suggérer que le romancier est bien devenu, pour les penseurs, d'après les années 50, en gros, un référent majeur, y compris comme repoussoir ou comme point aveugle, et je pense ici à Foucault, qui aurait très bien pu faire l'objet d'une intervention ici, Foucault qui, étrangement, a mésusé et a évité ou contourné Proust d'une certaine manière. Il faudrait peut-être comparer d'ailleurs avec les interventions de Proust chez Bourdieu, où on est dans peut-être des touches comme ça qui font sens. Alors ces penseurs ne cessent de faire commerce avec l'œuvre de Proust, faire commerce, y compris pour la trafiquer, pour notre plus grand bonheur. Alors à l'occasion des 40 ans de l'anniversaire de l'EHESS, que vous savez qu'il va y avoir une série de manifestations, notamment en juin, consacrée à la création de l'EHESS, c'est donc aujourd'hui le champ des sciences sociales qui, de façon certes non exhaustive, va être ouvert, avec une matinée qui sera tout d'abord dédiée à l'anthropologie, à la sociologie, qu'elle soit celle de l'époque de Proust ou celle qui se développe au plus proche de notre temps. Et cet après-midi va nous proposer un élargissement vers la naissance des sciences humaines et sociales à travers des réflexions qui reviendront sur les sciences religieuses, l'imagerie médicale et tout son cortège, j'imagine, de normalisation, ou les statuts de l'intelligence et de l'intellectuel. Alors Lévinas, pour conclure, encore lui, parle à propos de Proust du magnifique destin des survies innombrables de son œuvre. Et en effet, la recherche met en jeu des problématiques que notre contemporanéité invente et reformule à partir d'elle, à partir de cette œuvre. Et cette journée, finalement, a pour ambition d'examiner comment le style et le fait littéraire informent les sciences sociales, pas simplement comme une source toujours problématique, pas simplement comme un terrain un peu sableux bâti sur du fictionnel, mais la fiction fait partie du réel et elle est bien un terrain, mais les informe surtout au sens de leur proposer des formes leur permettant d'innover dans leur sphère de réflexion propre. C'est peut-être une des pistes qui pourra être abordée dans le rapport entre littérature et sciences sociales aujourd'hui. La question de la diversité des points de vue, celle de l'ambiguïté fondamentale des personnages proustiens, ambiguïté, sournoiserie, dissimulation, etc., d'autant plus importante qu'elle est toujours elle-même prise dans les raies de la temporalisation, c'est-à-dire que c'est une ambiguïté qui, en plus, évolue, oriente, me semble-t-il, les chercheurs vers une approche du style et des formes, pas simplement des contenus et des représentations. Alors c'est vers ces croisements, mais aussi vers ces tensions qu'il ne faut pas nier, entre la fiction narrative, les situations socio-historiques et la création intellectuelle que nous serons conduits lors de cette journée, qui va donc effectuer de constants allers-retours, d'une part, on l'a vu, entre l'époque de Proust et la nôtre, d'autre part, entre le souci littéraire des formes et des rythmes et l'exigence de compréhension, de renouvellement et d'invention des sciences sociales. Voilà pour la présentation, et Marielle, je pense qu'il y a...
Oui, juste deux mots, moi, en fait, pour remercier Anne de m'avoir associée à cette journée, puisque c'est elle la Proustienne, c'est elle l'initiatrice du Pôle Proust, et donc elle a eu Elle a eu la gentillesse de m'y associer, mais l'ensemble de la journée lui doit tout, depuis la conception du propos jusqu'à l'organisation la plus matérielle dont elle a dû malheureusement beaucoup se charger. Et je voudrais juste ajouter deux choses. La première, c'est que l'on salue deux absents, mais qui seront sans doute présents dans nos travaux. Deux absents ici de l'école, Vincent Descombes et Antoine Lilti, qui étaient bien sûr conviés à la journée. C'était très significatif pour nous que parmi des voix essentielles en philosophie, en histoire, Proust soit présent, au titre d'objet, mais aussi au titre... disons d'une pensée qui cogne à la vitre, enfin de quelqu'un à qui on ne peut s'empêcher de penser quand on entre dans certains espaces sociaux comme le monde du salon qu'a étudié Antoine Lilti. On espère que d'une façon ou d'une autre ils pourront s'associer à l'une ou l'autre de ces manifestations proustiennes. Et la deuxième chose peut-être simplement que je voudrais dire, c'est que Proust a évidemment un statut très particulier. Enfin, dans toute mobilisation de la littérature au sein d'une démarche de pensée du social, mais d'une démarche de pensée de façon beaucoup plus générale. Il a un statut si particulier que c'est sans doute dans la façon dont on parle de Proust que l'on fait surgir les convictions les plus profondes sur ce que l'on a à dire de la littérature, mais aussi sur ce que l'on a à dire avec la littérature. Donc ça n'est pas un exemple parmi d'autres de la façon dont les sciences sociales mobilisent la littérature, la font parler, la contournent ou au contraire la mettent à profit. Ça n'est pas un exemple parmi tant d'autres, Proust. C'est un point d'autorité, c'est le terrain sur lequel surgissent les convictions. Voilà. Et je pense que chacun de ceux qui vont prendre la parole ici, qu'ils soient sociologues ou philosophes ou littéraires, d'une façon ou d'une autre auront, j'espère, à dire avec Proust quelque chose qui tient au cœur de leur propre démarche. Enfin, je crois que Proust a cette vertu-là. Donc voilà, c'est ce pari qu'on essaie de faire aujourd'hui en donnant la parole à la fois à des gens qui sont des très proches de l'école des hautes études, puisque c'est une manifestation, comme l'a dit Anne, qui fait partie de... Enfin, qui honore la création de l'école des hautes études il y a 40 ans. Enfin, pas exactement sa création, sa maturité, son état de maturité, puisqu'elle a été créée il y a 70 ans aussi. Bref, on y reviendra. Donc, qui donnera la parole à des figures importantes ici de l'EHESS et puis à des figures importantes des études proustiennes en France et au-delà. Donc, merci à tous d'être là. Merci à Anne d'avoir suscité cette journée. Et puis voilà, au travail. On y va.
Et merci à Marielle parce qu'elle était évidemment beaucoup plus présente que ce qu'elle m'a dit. Voilà.
On est très contente évidemment d'ouvrir la journée avec Barbara Carnevali dont la présence s'impose et qui enseigne cette année même un séminaire sur Proust et les sciences sociales, Proust et Simmel plus exactement, ici à l'école des hautes études. Barbara Carnevali est ancienne élève de l'école normale de Pise, elle a travaillé à l'université de Chicago, à l'institut d'études avancées de Paris, elle est maintenant maître de conférence ici à l'EHESS. Son travail porte sur la philosophie morale et sociale et notamment sur un domaine qu'elle a contribué à nommer l'esthétique sociale, la dimension esthétique du monde social donc, auquel elle consacre ici ses enseignements. Elle travaille notamment sur la théorie de la reconnaissance, le pouvoir symbolique, la publicité et la philosophie de la littérature dans une perspective aussi bien historique que théorique. Je cite simplement deux de ses publications, un livre sur Rousseau qui a d'abord été publié en italien puis qui a été traduit chez Droz en 2011, Romantisme et reconnaissance, figure de la conscience chez Rousseau, et puis un livre plus récent, Le apparenze sociali, una filosofia del prestigio, chez Il Mulino en 2012, Les apparences sociales, une philosophie du prestige, un livre qui était né du projet de faire un livre sur Proust. Et peut-être qu'on pourra parler justement de ce que Proust avait d'exemplaire dans ce propos. Elle va donc nous présenter un, un travail autour de ce qu'elle appelle la micro-esthétique du social, c'est-à-dire d'une sensibilité commune à un certain moment de l'histoire entre sociologues, historiens et romanciers, une sensibilité commune aux petits faits de la vie sociale et à ce qu'ils engagent. Voilà, merci beaucoup, Barbara.
Merci beaucoup tout d'abord à Anne et Marielle d'avoir organisé cette initiative magnifique et d'avoir donné aussi l'honneur de l'inaugurer ce matin. Je voudrais aussi m'excuser avant de commencer mon propos parce que comme toujours, quand je parle à l'oral, je dois remanier continuellement mon intervention, je vais m'autre traduire de l'italien. Donc, je m'excuse pour les fautes qui seront encore plus nombreuses que d'habitude. Je voudrais donc présenter pour cette journée consacrée au rapport de Proust aux sciences sociales certains aspects d'une recherche dans laquelle je suis engagée depuis des années et à laquelle, comme Marielle l'a rappelé, je consacre un séminaire ici à l'École des études. Je vais parler notamment de la partie de mon travail qui fait dialoguer la recherche avec la sociologie de son temps et notamment avec cette famille de pensée franco-allemande que j'appellerais la microsociologie et dont les représentants principaux sont Gabriel Tarde et Georg Simmel. La confrontation entre ces deux auteurs me semble cruciale pour comprendre la vision du social qui est propre du roman proustien et pour interroger sa spécifique valeur cognitive. Comme les matériels sur lesquels ma recherche se fonde est très riche, pour les condenser dans un discours accompli, je devrais par nécessité sauter certains passages des démonstrations et d'explications, et je serai heureuse éventuellement de revenir sur ces passages pendant la discussion. Avant d'aborder le cœur du problème, il est nécessaire une brève prémisse méthodologique et historique. La confrontation entre les trois auteurs, Proust, Tarde et Simmel, se fonde en effet aussi bien sur des rapports directs et documentés que sur ce genre de rapports indirects et toujours très souvent très arbitraires qui sont définis dans les titres des communications comme des rencontres manquées. Pour expliciter donc les présupposés scientifiques de mon travail, je voudrais donc préciser que la dette de Proust à l'égard de Tarde a été largement démontrée. Elle est l'objet notamment des études importantes d'Anne-Henri et de Luc Fraisse, et je renvoie donc à ces travaux pour toute l'information nécessaire, ainsi qu'à l'intervention de Jacques Dubois, que je suis très heureuse de pouvoir écouter d'ici peu. Autant documenter les rapports entre Tarde et Simmel, qui, entre autres, a recensé positivement les lois des limitations juste après leur publication. Je vais revenir sur le contenu de ces comptes rendus qui est très intéressant pour nous. Pour tout ce qui regarde les rapports entre les deux auteurs, je m'appuie notamment sur les travaux d'un spécialiste des Simmel, c'est un spécialiste italien qui s'appelle Andrea Borsari et qui a beaucoup inspiré certaines de mes intuitions. Pour ce qui concerne Proust et Simmel, en revanche, ils ne se sont jamais rencontrés ni lus réciproquement. Et malgré les réseaux des échanges intellectuels et artistiques qui connectaient Paris et Berlin à la Belle Époque, Simmel lui-même était venu à Paris pour rendre visite à l'atelier de Rodin, il ne semblait pas que les deux auteurs aient eu connaissance l'un de l'autre. Bien qu'il soit sans précédent, donc, la comparaison entre leurs œuvres me semble toutefois justifiée par l'évidence de certaines fortes affinités thématiques et des sensibilités, dont jusqu'à maintenant, semble s'être aperçu justement les plus proustiens des élèves de Simmel, évidemment Walter Benjamin. Je vous rappelle que l'héritage de Simmel faut reconduire des génies comme Georgi Lukács, Siegfried Kakauer et Ernest Bloch, donc tous deux des personnalités qui ont marqué l'histoire de la philosophie sociale et de la sociologie, de la pensée sociale allemande. Dans sa traduction et interprétation personnelle de la recherche, Walter Benjamin montre d'avoir mis à profit l'enseignement de son maître, dont il gardait le souvenir vivant des leçons qu'il avait écoutées à Berlin. Et il y a de plus. Une fois arrivé à Paris, Benjamin se procura le recueil mélange de philosophie relativiste dans laquelle étaient compris les traductions françaises de certains essais siméliens, notamment les cruciales sociologies des sens. Mais outre que par ces deux médiations indirectes, donc la source commune, Gabriel Tarde, et les passeurs interprètes, Walter Benjamin, les parallèles entre Simmel et Proust se fondent sur certains facteurs contextuels qu'il est important de rappeler. Les deux auteurs ont été presque contemporains, Zimmel vit entre 1858 et 1918, Proust entre 1871 et 1922, comme on le sait. Et il partage, à partir de ce centre d'observation privilégié, qui fut les deux métropoles protagonistes de la Belle Époque, Paris et Berlin, deux expériences fondamentales qui sont aussi des clés d'interprétation de leur ouvrage. La première est l'événement de la modernité, comme nouvelle forme d'expérience qui transforme en profondeur la constitution psychique du sujet et son rapport avec le monde, au milieu, aussi bien en sens naturel que social. Proust et Zimmel réfléchissent en particulier sur les modalités esthétiques, sensorielles et perceptives qui sont impliquées dans la vie moderne, dans les milieux urbains, dans les nouvelles formes transcendantales du temps et de l'espace, l'accélération, le Lebenstempo, c'est-à-dire le rythme de la vie moderne, la mode, la proximité physique, par les nouveaux moyens de communication et de transport, comme les téléphones, les trains et l'automobile. Il faut rappeler que Zimmel est l'auteur, outre que de la grande synthèse sur la modernité, qui est la philosophie de l'argent, publiée en 1900, de l'essai Les grandes villes et la vie de l'esprit, 1902, qui résume certains chapitres de son chef-d'œuvre. Et à partir de ces textes, par exemple, que Benjamin a tiré sa théorie du choc. On le rappelle pas souvent, mais ça vient d'ici, c'est Zimmel qui parle du choc sensoriel de la ville. Et l'idée que la conscience moderne réagit à l'excès des stimulations sensorielles qui la rendent vulnérable par des stratégies de protection. C'est un thème, évidemment, qui a des profondes résonances avec la réflexion proustienne sur l'habitude. Dans ces mêmes travaux, Zimmel avance des réflexions esthétiques qui sont d'un grand intérêt pour les lecteurs de la recherche. Il mène une distinction entre les typologies des attitudes intellectualistes, cyniques et blasées. Il affirme la centralité de la Nervenleben, la vie nerveuse, et introduit la notion corrélée d'hyperesthésie et anesthésie comme syndrome de l'excitation et de l'épuisement nerveux typiquement moderne. On sait qu'Adrien Proust parle à son tour de ces syndromes dans son traité sur l'hygiène du neurasthénique, qui inspire les principes pédagogiques du père du narrateur dans la recherche, dont les protagonistes, avec d'autres personnages du roman, est défini à plusieurs reprises comme atteint d'une redoutable excitabilité nerveuse. Mais à côté de cet intérêt pour la modernité esthétique, Zimmel et Proust partagent aussi l'expérience virtuellement opposée, qui, avec la formule de l'historien américain Arno Mayer, on pourrait définir la persistance de l'ancien régime, c'est-à-dire la survie de l'ancien ordre social pré-révolutionnaire, bien au-delà de sa disparition juridique officielle, à l'âge donc que les clichés historiographiques aiment associer au triomphe économique de la bourgeoisie et de la démocratie au sens tocquevillien. Les villes de Paris et de Berlin sont aux yeux d'Arno Mayer les citadelles de cette résistance de la tradition, qui surtout en France voit l'aristocratie exercer une forme d'hégémonie culturelle fondée sur le prestige de son style de vie. Cette longue agonie pourra se dire terminée seulement avec la Grande Guerre, l'événement avec lequel se concluent symboliquement les trajectoires existentielles aussi bien de Proust que de Zimmel. Or, la question du Nachleben, de la vie posthume de la tradition, peut sembler étrangère à Zimmel, qui est normalement considéré comme le grand interprète de la modernité. Mais en fait, il se manifeste dans des motifs très reconnaissables, surtout dans son intérêt pour les formes du vivre social, et dans sa théorie de leur autonomisation, c'est-à-dire l'idée que, à partir des origines fonctionnelles aux intérêts de l'aristocratie, par exemple le rituel de la chasse, la pratique de la chasse, les formes se sont émancipées et sont devenues des rituels de jeu de la vie sociale tout court. C'est une perspective qui rappelle celle de Johann Huizinga, l'auteur de l'automne du Moyen-Âge et de Homo Ludens, un autre des héritiers indirects des Zimmel qui a été influencé justement par ces aspects de la morphologie zimmelienne. Parmi les phénomènes que Zimmel a exemplifié avec lesquels Zimmel a exemplifié sa conception de la morphologie sociale, le plus important est celui de la Geselligkeit, la forme de la sociabilité mondaine qui consiste essentiellement dans la conversation des salons. Cette observation nous conduit insospectablement à un autre thème proustien, celui de la mondanité. On oublie en effet facilement que Zimmel, rentier des familles juives assimilées, ne limitait pas son activité intellectuelle à l'enseignement universitaire. Sa carrière, d'ailleurs, fut vraiment tourmentée à cause aussi des interdictions raciales. Mais il tenait un salon qui était fréquenté par des personnalités en vue, des intellectuels, dont politiques et des artistes. Il s'agit bien sûr de deux mondanités très différentes, les salons allemands ayant plutôt la nature d'un cercle intellectuel initiatique, et non pas d'un salon à la façon Verdurin ou Guermantes. Mais il est intéressant de remarquer que la familiarité avec la sociabilité mondaine a causé pour nos deux auteurs des accusations identiques, dilettantisme, impressionnisme et surtout esthétisme, entendu comme l'attitude contemplative élitaire et désintéressée, caractérisée par la distance à l'égard des besoins réels et par la tendance à neutraliser les problèmes économiques, politiques et moraux. À cette perspective, il est spontané de reprocher à nouveau aux deux auteurs, à Zimmel et à Proust, l'autre sociologue salonnier de la Belle Époque, Gabriel Tarde, qui sera accusé par l'école durkheimienne, de la même manière que Zimmel, de dilettantisme impressionniste et de manque de scientificité. C'est donc à partir de cet enchevêtrement d'affinités électives et de relations directes et indirectes que j'essaierai de reconstruire, de retracer la physionomie d'une famille de pensée que j'appellerai justement la microesthétique du social. Je vais construire une espèce de type idéal, utile à interpréter Proust, sans oublier que Zimmel et Tarde, qui partageaient des importants aspects de leur travail, qui émergent surtout par négation, dans la négative, à travers les accusations formulées par leur commun adversaire, gardent des points de distance qui sont autant importants. Donc, le type idéal de la microesthétique du social. Il y a trois aspects dans cette famille idéale typique qui me semblent particulièrement précieux pour interpréter la recherche. Premièrement, l'approche microscopique, c'est-à-dire l'idée de définir le social à la petite échelle, dans le sens aussi bien de la taille physique, les petites interactions qui relient même un nombre très limité de personnes, deux ou trois, aussi bien que la valeur objective des phénomènes, c'est-à-dire la révélation des phénomènes mineurs et secondaires. Deuxièmement, l'importance des aspects sensibles de l'échange social et donc de leur constitutive dimension esthétique. Enfin, la nature inconsciente de l'interaction sociale dont les lois agissent à l'insu des sujets sociaux qui les subissent. Pour ce qui concerne le premier point, je vais citer comme manifeste la très belle réflexion de Zimmel tirée de son introduction à l'essai sur la sociologie des sens, publiée en 1907 et qui sera inclus sous forme d'excursus dans sa grande sociologie 1908. Je vais les lire entièrement. Aujourd'hui, la science sociale en est généralement encore à cette période où elle observe seulement les grandes formes sociales, celles qui sautent aux yeux. Et c'est en se basant sur celle-ci qu'elle veut édifier dans son ensemble la connaissance de la vie sociale. Les États et les syndicats, les différentes formes du clergé et de la famille, les corporations et les fabriques, les formations des classes, la division du travail, voilà les organes et systèmes qui, avec d'autres du même genre, semblent former la société et constituer les champs d'observation des sciences qui se rapportent à celle-ci. À la vérité, ces formes font partie d'un ordre supérieur. Ce sont des cristallisations de la vie réelle des êtres associés. Vie qui se déjoue, pour ainsi dire, d'un cas concret à l'autre. Et cette vie si vibrante, qui enchaîne les êtres les uns aux autres, montre, outre les formes d'association qui peuvent prétendre au titre de ces vastes organismes, un très grand nombre d'autres formes qui restent en quelque sorte dans un état de fluidité et d'écoulement, mais sur lesquelles s'effondrent néanmoins les relations des individus formant l'état social. Voici des gens qui s'observent, se jalousent, s'écrivent, dînent ensemble, s'habillent ou se parlent les uns les autres, s'attirent ou se repoussent tout à fait indépendamment de tout intérêt palpable. Autant d'exemples choisis au hasard parmi les milliers de rapports momentanés ou durables, conscients ou inconscients, fugitifs ou féconds, qui nous lient sans cesse. Oh, pardon. Cette déclaration de 1907, comme je le rappelais, correspond à de nombreuses déclarations équivalentes par Gabriel Tarde, qui les précède. Et c'est justement dans les débats entre Tarde et Durkheim qu'on peut faire émerger pleinement tous les enjeux de cette revendication de la valeur de la petite échelle et la distance qui sépare la famille de la microsociologie de l'école holiste et organiciste qui s'est imposée dans la tradition sociologique académique, surtout française. Dans la version de Zimmel, cet enjeu se résume dans une définition du social fondée sur les primats de l'interaction, la primauté de l'interaction, la notion de Wechselwirkung en allemand, c'est-à-dire le plus important concept de la sociologie zimmelienne, l'action réciproque. Il y a société là où il y a un lien d'influence réciproque qui n'est pas nécessairement symétrique. Il suffit qu'il y ait un processus de réaction et réaction entre un minimum de deux sujets. Ce qui porte à réévaluer, à côté des grandes entités cristallisées, comme Zim les nomme, qui sont l'objet traditionnel et noble de la sociologie, comme l'État, les classes, les églises, les phénomènes sociaux mineurs, difficiles à saisir parce qu'ils sont à l'état fluide et apparemment insignifiants, sinon même frivoles, comme la mode, la distinction et même la coquetterie à laquelle Zim l'a consacré, un de ses essais plus beaux. Si on revient à Proust, en tenant compte de cette citation, et en particulier de la très belle phrase finale sur les formes fluides du social, faites des gens qui s'observent, se jalousent, s'écrivent, dînent ensemble, s'habillent ou se parlent les uns les autres, s'attirent ou se repoussent, on comprend immédiatement que l'approche microscopique non seulement se prête parfaitement à l'étude du monde social de la recherche, mais en met pleinement en valeur les caractéristiques spécifiques. Il n'y a pas d'épisode du roman, il n'y a presque pas d'épisode du roman qui ne puisse pas être lu dans cette clé. Les liens de jalousie, envie, sadomasochisme qui unissent Swann à Odette, Marcel à Arbeltine, Tante Léonie à ses domestiques, les contorsions snobs de les grands dents qui les relient vers les bas à la famille du narrateur et vers les hauts aux aristocratiques. Et encore, les complexes mécanismes d'inclusion et d'exclusion du clan Verdurin, les petits rituels familiers de Combray, les déjeuners du samedi, les promenades, les visites à Swann, les visites de Swann, les réceptions des Guermantes, les rapports entre les clients et le personnel de l'hôtel, les grands hôtels de Balbec, les soirées à l'opéra, etc. Ils sont tous des phénomènes digne et imbibé d'une signification sociale qui mérite d'être déchiffrée et expliquée. Malheureusement, il n'y a pas le temps d'expliciter toutes les implications théoriques et herméneutiques de cette approche. Je peux toutefois suggérer des pistes en évoquant la façon dont des élèves des IML qui sont associés à Proust l'ont développée. En définissant l'extraordinaire capacité de Walter Benjamin de déchiffrer les détails, une capacité qu'il percevait comme très proche à sa propre dialectique négative, Adorno a parlé proprement d'une méthode micrologique. Erving Hoffman, à son tour, dont le travail a inspiré la lecture sociologique de la recherche de Livio Belloy, a fondé son analyse des petites interactions de la vie quotidienne. Ce n'est pas un hasard si la thèse de doctorat de Goffman reporte en exergue justement comme déclaration de poétique cette longue citation de la sociologie des sens. Je passe maintenant au deuxième point. Et pour l'illustrer, je vais encore une fois m'appuyer à une citation tirée de la sociologie des sens. Cette recherche entend explorer l'importance de la perception et de l'influence sensorielle et mutuelle dans la coexistence entre êtres humains, son importance pour leur coopération les uns avec les autres, les uns contre les autres. Le fait que nous soyons absolument tissés d'interactions est tout d'abord à ce que nous réagissons à un niveau sensoriel les uns par rapport aux autres. Chaque sens, en fonction de sa particularité, contribue de façon caractéristique à l'agencement de l'existence collective et aux nuances de ces impressions correspondent des spécificités des rapports sociaux. La prédominance d'un sens ou d'un autre dans les contacts entre individus confère souvent à ces contacts une tonalité sociologique, sociologische Färbung dans l'allemand, qui sans cela n'aurait pas pu être obtenue. Le développement de l'approche microscopique dans une direction esthétique est l'apport le plus originel que Simmel a porté à la microsociologie. J'en ai déjà évoqué les aspects fondamentaux dans mon introduction. D'un côté, nous avons l'attention pour la physiologie perceptive et pour la vie nerveuse, aussi bien dans les rapports intersubjectifs que dans les rapports au milieu. De l'autre, l'intérêt pour les aspects formels du vivre social, qui porte Simmel à revendiquer l'importance du style de vie comme aspect fondamental de la connaissance sociologique, ainsi qu'à découvrir la dimension esthétique des phénomènes d'imitation et de distinction. C'est justement dans la revendication de ce qu'il appelle les cachets esthétiques de la mode, par exemple, qui consiste à l'intégration fondamentale de l'essai des Simmel sur la mode aux lois de l'imitation des tardes dont il reprend les principes fondamentaux. En général, la section de la pensée simmelienne qui a le nom d'esthétique sociologique est une mine inépuisable des concepts, réflexions, intuitions qui méritent d'être mises à l'épreuve dans l'interprétation de la recherche. Parmi les pistes qu'on pourrait approfondir, il y a surtout celle du prestige. Même le prestige est un thème originairement tardien, C'est le concept qui, dans les lois de l'imitation, explique les particuliers parcours à cascade des flux imitation. Tandis que la mode, à la différence du prestige, dirige les flux qui sont horizontaux. Une analyse simélienne pourrait révéler des précieux aspects esthétiques de cette question, tout en commençant par l'insistance avec laquelle Proust décrit la sonorité d'un homme de Guermantes ou les traits formels de leur style de vie. La conception proustienne du prestige se démontre donc comme un cas exemplaire de cette sociologische Färbung qui, et je cite encore une fois Sim, qui correspond aux nuances des impressions, dont les nuances des impressions correspondent des spécificités des rapports sociaux. Pour cette question et pour d'autres questions de l'esthétique sociale proustienne, je renvoie aux travaux que j'ai déjà publiés que je ne vais pas résumer ici. Et je passe maintenant au troisième et dernier point. Et pour l'illustrer, cette fois, celui qui est relatif à la dimension inconsciente de l'influence sociale, je vais donner la parole à Tard, mais que je vais citer à travers la médiation d'Ezim, qui dans son compte-rendu reporte justement seulement cette longue citation dans laquelle les agents sociaux, qui sont définis comme traversés par des flux d'imitation et des distinctions des modes et des prestiges, sont comparés à des somnambules. Donc c'est la phrase de Tard que Sim reprend dans son compte-rendu. L'état social, comme l'état hypnotique, n'est qu'une forme de rêve, un rêve de commande et un rêve en action. N'avoir que des idées suggérées et les croire spontanées, telle est l'illusion propre au somnambule et aussi bien à l'homme social. Penser spontanément est toujours plus fatigant que penser par autrui. Aussi, toutes les fois qu'un homme vit dans un milieu animé, dans une société intense et variée, qui lui fournit des spectacles et des concerts, des conversations et des lectures toujours renouvelées, il se dispense par degrés de tout effort intellectuel. Et s'engourdissant à la fois et se surexcitant de plus en plus, son esprit s'est fait somnambule. C'est l'état mental propre à beaucoup de citadins. La société, c'est l'imitation, et l'imitation, c'est une espèce de somnambulisme. C'est une phrase qui pourrait figurer en exergue un essai sur la nature de l'expérience mondaine et de la recherche, dont elle explique l'effet à la fois excitant, magnétique et hypnotique sur l'expérience de ce personnage, comme Marcel et surtout les stériles Swann, voient bloquer leur capacité de création. Aussi bien pour Proust que pour Tard et Sim, l'expérience sociale est fondamentalement inconsciente. Elle passe à travers des flux et des suggestions dont les sujets sociaux ne sont pas conscients. Et une intuition qui est typiquement proustienne et qui articule les lois de l'imitation et de la distinction dans la direction de la théorie du sens pratique de Pierre Bourdieu, se fixe surtout dans leur corps. Elle s'incorpore dans l'habitus, qui devient ainsi le lieu d'expression par excellence de l'inconscient social. Parmi les nombreuses scènes paradigmatiques de la recherche, je voudrais citer l'épisode de la soirée de l'amitié, au cœur du volume de Guermantes, celui dans lequel Saint-Loup fait un bond spectaculaire, un voltige, en sautant sur les fauteuils d'un restaurant, sous les yeux admirés, pleins d'admiration de tous les clients, et surtout, en premier lieu, de Marcel. À propos de ces manières aristocratiques qui ont incorporé les prestiges de sa classe d'appartenance à l'insu et même en contraste contre ces nobles et sincères conventions démocratiques, les narrateurs commentent pour que le corps de Saint-Loup fût habité par tant d'aristocratie, il fallait que celle-ci ait déserté sa pensée, tendue vers de plus hauts objets et résorbée dans son corps, s'y fût fixée en ligne inconscient et noble. Même dans ces cas, la question esthétique se révèle déterminante. Les apparences sociales sont la dimension sensible dans laquelle l'inconscient corporel se manifeste dans la sphère publique et parle son langage symptomatique, et à la fois la dimension par laquelle l'interprète doit partir pour déchiffrer leur signification occulte et l'essence du comportement social. Comme dans une espèce de psychanalyse sociale, il faut donc partir des symptômes pour arriver aux lois qui sont ignorées par les sujets qui les subissent. Je voudrais donc conclure cette brève réflexion en soulevant une question qui me semble décisive. Si, comme je l'ai soutenu jusqu'ici, la vision proustienne du social a des profondes affinités avec la microsociologie de son époque, de laquelle elle partage les mêmes types de regards à la petite échelle, la même sensibilité pour les aspects esthétiques et sensibles du social et les mêmes intérêts pour leur nature inconsciente, qu'est-ce qu'il y a d'unique dans la connaissance de la société et de la recherche en tant qu'œuvre littéraire? En quoi les romans proustiens se distinguent des analyses des tardes et des hymnes en se démontrant irréductibles? Pour le dire autrement, quelle est la différence spécifique qui sépare un grand sociologue et un grand romancier? J'essayais d'offrir une première réponse à ces questions dans un essai que j'ai publié il y a quelques années dans les Annales sur la tradition de l'étopée, dans lequel je m'approprie de l'idée de philosophie du roman défendue par Vincent Descombes dans son livre sur Proust. Aujourd'hui, je voudrais toutefois suggérer une réponse différente fondée sur l'articulation que la forme romanesque particulière adoptée par Proust permet d'instituer entre deux diverses formes de connaissance du social. La connaissance objective, fondée sur un point de vue extérieur au monde qui est l'objet d'étude, et la connaissance subjective, celle qui vient de l'expérience participante. On peut donc distinguer dans la recherche ces deux modalités cognitives. D'un côté, nous avons un monde social, régi par les lois de limitation et de la distinction, traversé par des flux et des modes, par des courants magnétiques de prestige. Les acteurs sociaux sont agis par ces lois inconsciemment comme des sonnambules de tarde. Les narrateurs les observent, les décrivent et déchiffrent leur comportement comme les symptômes d'une vérité profonde qui est ignorée par leur conscience et qui révèle sa signification sociale à la une de l'opération cognitive que nous avons définie de psychanalyse sociale. Dans des moments pareils, Proust attribue au narrateur un point de vue de nulle part, celui de qui détient une vérité sur le monde social qui est ignorée par ses participants. Il s'aligne donc naturellement dans cette conception de la science sociale qui, de Lévi-Strauss à Bourdieu, attribue à l'intellectuel la tâche de rendre consciente la conscience à travers une œuvre d'objectivation. En se délivrant des lois du magnétisme social, seul réveillé parmi les somnambules, les narrateurs sont comme les scientifiques qui mettent au jour les structures objectives du monde social, selon les mots des Immel que je vais citer par sa recension à Tarde. Ces imitations qui traversent les groupes de part en part et les ressemblent dans une forme unique de vie veillent à rester inconscientes parce qu'elles vont de soi pour les individus. Porter leur entendu et leur influence à la conscience scientifique est une recherche très avisée et qui peut être riche de conséquences. Et toutefois, ces premiers points de vue, objectivement, cohabitent et se mêlent avec une autre perspective, celle du héros protagoniste de l'histoire, Marcel, lequel observe et surtout vit les mondes sociaux du point de vue de l'indigène qui lui appartient. Cette perspective ne peut plus être neutre et objective. Elle est partielle et nécessairement biaisée par des désirs et des intérêts situés. Surtout, elle conserve un élément d'inconscience qui rend les points de vue subjectifs victimes des mêmes illusions dans laquelle est immergée toute la société dans son intégrité. Or, bien qu'il semble idéalement dépassé par l'universalité du premier, ce second point de vue intègre et enrichit la méthode de la connaissance objective par deux aspects fondamentaux, un aspect psychologique et un aspect moral. D'un côté, en effet, le regard phénoménologique de l'intérieur permet d'étudier les effets de l'illusion sociale du point de vue du sujet qui l'a subi. Cette perspective interne se révèle extrêmement précieuse dans le cas des phénomènes esthético-sociaux qui nous tiennent au cœur, parce qu'elle permet de montrer les points dans lesquels la loi sociale s'articule à la psychologie individuelle, tout en révélant, par exemple, les mystères de la production et de l'efficacité du prestige sur la psyché individuelle. Par exemple, le rôle que les désirs d'une vie meilleure et l'imagination anticipante ont dans la création du snobisme. En développant le parallélisme entre l'expérience du snob et celui de l'amoureux, qui est un des leitmotivs caractéristiques de la recherche, nous pourrions dire que les points de vue internes révèlent les mécanismes psychologiques du snobisme, qu'Adorno a défini justement comme l'érotisation de la hiérarchie sociale, avec la même finesse et pertinence avec laquelle il révèle les mécanismes de l'énamourement. Et il ajoute un morceau fondamental à notre psychanalyse du monde social, le point de vue du patient qui raconte son histoire. Mais surtout, il ne faut pas oublier que le point de vue subjectif est celui d'un personnage qui fait expérience tout au long d'une narration et dans les temps. Son rapport à l'illusion sociale est celui d'un désenchantement progressif qui se termine idéalement non seulement avec la connaissance des lois du social qui s'accomplit dans la scène du bal des têtes du temps retrouvé, mais aussi avec la compréhension de sa vanité. les moments dans lesquels, les moments où Héro atteint la connaissance objective, qui deviendra ensuite celle du narrateur, en unifiant les deux points de vue, et aussi celle qui détermine sa conversion morale et sa décision d'abandonner la société pour s'adresser à la création artistique et solitaire. À l'intérieur du récit en première, à la première personne, qui est aussi le récit d'une expérience d'émancipation et de salut, les Proust sociologues, ces reçus, deviennent ainsi les Proust moralistes, qui recherchent l'authenticité individuelle au-delà et au-dehors des rapports sociaux. En somme, avec ce saut à la dimension morale, la perspective de Proust se sépare radicalement de celle des sociologues comme Tard et Simmel, et il se rattache idéalement à la tradition des moralistes classiques, par exemple au point de vue des auteurs comme Pascal ou Rousseau. L'étude des lois sociales, ne vise pas une connaissance scientifique et désintéressée du monde social, mais se justifie à l'intérieur d'une philosophie morale plus élargie, ambiguë des critiques, c'est-à-dire la dénonciation de l'aliénation mondaine qui corrompt le moi et l'éloigne de ses véritables fins, et nettement subjective, ce qu'il est en jeu. En dernière analyse, ce n'est que la cellule individuelle qui est indifférente de toute dimension collective et politique. En somme, et je conclue, s'il existe une vision proustienne du social, il n'existe pas une sociologie proustienne proprement dite. La connaissance du social ne vise pas à connaître l'agir individuel comme une partie du tout qui le comprend et qui l'intègre. La recherche de la vérité, au contraire, retourne cet ordre cognitif et moral à faveur de la liberté d'un sujet qui s'enfuit du social au nom de la quête éthique de la bonne vie. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Merci beaucoup. On va se donner quelques minutes de questions. Moi, je reviendrai volontiers sur la citation proustienne qui me semble... très bien appuyer la conclusion. Enfin, c'est, je trouve très juste de dire qu'il y a une vision proustienne du social et qu'elle est partagée avec la sensibilité de la microsociologie, mais pas une sociologie de Proust. Et peut-être que c'est ce qu'on perçoit justement dans cette citation qui dit pas seulement que l'aristocratie est fixée dans son corps, mais qu'il a fallu qu'elle déserte sa pensée. Ouais. Et c'est bien cet équilibre entre un devoir d'arrachement et une espèce de refuge physiologique du social. Enfin, c'est une vision aussi assez sombre, mais qui appuie très bien ta conclusion. Est-ce que Jacques Dubois?
Oui, j'ai beaucoup aimé la plupart de ce que vous avez dit, mais je n'y vois peut-être pas tout à fait clair sur ce point, c'est que dans la ligne que vous établissez entre Tard et Simmel, tout à l'heure, je reviens en arrière, tout à l'heure je parlerai peut-être plus de Durkheim que de Tard, et l'habitude finalement c'est de considérer que chez Tard, ou dans la ligne qui va de Tard à Simmel, c'est l'individu qui fait le social, c'est l'individu qui fait société, et non pas la société qui serait toujours déjà là comme une antériorité. Je ne sais pas où vous situez tout à fait, si vous devez vous situer sur ce point.
Probablement pour répondre très vite du côté de Bourdieu qui met ensemble un peu les perspectives, plutôt du côté d'Horkheim pour ce qui concerne la préexistence du social aux individus, mais pour la question de la petite échelle et de l'attention au détail du côté de la microsociologie. Je pourrais aussi ajouter qu'une interprétation possible de ce qui a été considéré l'individualisme tardien et simmélien est celle qui va dans la direction qui a été développée par exemple par Bruno Latour, etc., et qui insiste plutôt sur la relation. C'est-à-dire pas sur l'idée qu'à l'origine du social il y a l'action individuelle, mais qu'il y a plutôt la relation, ce que Exim est justement appelé la Wechselwirkung, l'action réciproque. Donc une idée relationnelle du social, fondée sur l'interaction plus que sur la primauté de l'individu.
Personnellement, je me situe entre ces deux, un mélange, un point de, au milieu entre ces deux écoles.
Ce qui semble indiquer que les oppositions qu'on fait actuellement ne sont pas aussi fortes que cela.
Si on relit les textes de manière précise, je trouve qu'il y a beaucoup de vraiment de suggestions qui vont dans ce
sens. Oui.
On a simplifié, surtout pour tous ceux qui concernent le prétendu côté individualiste de la pensée de Désir, mais qui, à mon avis, est vraiment nié par son insistance sur la primauté de la relation sur les individus. C'est qu'il entre deux. Il était un hegelien. Donc il voyait il aimait la médiation, il n'aimait pas l'individu du tout. La philosophie de l'agent, c'est un traité de philosophie sociale fondé sur la relecture d'Hegel. Et là, je me reconnais pleinement sur cette idée. Merci.
Je crois qu'il y avait une autre question. Oui,
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 je crois que je comprends aussi ton dernier point concernant la perspective différente de
oui.
Les deux immeubles, parce que moi j'avais l'impression que tu commençais justement de l'autre côté, de la perspective opposée qui comparait et qui trouvait les similarités. Et je me demande si au final on ne revient pas au même si on regarde le fait qu'on peut faire la sociologie sur la base du monde que Proust nous donne. On peut parler d'une sociologie du monde proustienne qui n'est pas forcément faite par Proust, mais qui est offerte à travers sa vision, disons. C'est-à-dire qu'il décrit un monde d'une manière qu'on peut en déduire une espèce de sociologie qui est tout à similaire de la logique simonienne, si j'ai bien compris. Je comprends. C'est-à-dire que même si la perspective subjective de Proust ou de son narrateur en tant que sujet d'une perspective subjective, ce que nous en tant que lecteurs pouvons en déduire, c'est une sociologie pareille à celle de Simmel.
Je suis tout à fait d'accord, merci. Je pense que c'est justement ce que j'entendais dire. Et c'est surtout ce qui correspond au premier point de vue, celui que j'ai appelé de l'objectivation sociale, donc qui correspond plus ou moins à la position du narrateur qui, et à notre lecture aussi de ses remarques sur le monde social. Tandis que ce qui fait vraiment la spécificité et la complexité du roman proustien, c'est la juxtaposition de ces deux points de vue, celui qui fait. Il nous donne les deux. C'est une sorte de conciliation extraordinaire entre les deux points de vue qui, normalement, dans l'école sociologique, ne vont pas ensemble. Le point de vue phénoménologique de l'indigène et le point de vue de l'extériorité. Parce qu'il nous raconte en même temps l'expérience d'un sujet qui découvre la société, qui est fasciné par les guermantes et qui, à un certain moment, est désenchanté. Et donc il comprend leur inanité, et de l'autre côté il fait des remarques plutôt extérieures sur les mécanismes et les lois qui régissent ce même monde social. Mais vraiment la grande richesse, c'est le mélange de ces deux points de vue, et le fait que les deuxièmes, qui semblent dépassés par les premiers parce qu'il est le moins universel et le moins objectif, nous apportent ce point de vue interne qui est fondamental pour comprendre ce qui se passe dans la tête des gens quand ils vivent et ils sont les victimes de l'illusion sociale. Je dirais que c'est au moins, ça correspond à mon expérience de lectrice aussi, l'idée d'avoir compris et d'avoir appris vraiment beaucoup de choses par les mélanges de ces deux points, de ces deux perspectives qui s'intègrent.
Merci beaucoup.